Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé, bien-être tous les jours du lundi au vendredi de 15h à 16h. Alors comme tous les jours, bien sûr, il est avec moi dans ce studio, c'est le grand, le beau, le docteur Jimmy Mohamed, j'en fais un peu trop. Bonjour Jimmy.
Non, vous êtes très juste pour une
vous
fois.
Aimez bien,
bonjour
hein.
Mélanie, bonjour à tous.
C'est un bon moyen de commencer. Allez, au programme aujourd'hui, notre grand dossier du jour sera consacré à un syndrome qui n'est pas grave en soi, mais qui peut clairement pourrir la vie de ceux qui en souffrent, le syndrome des jambes sans repos. Les jambes impatientes, ces jambes qui fourmillent, qui démangent et même qui deviennent douloureuses, surtout la nuit, avec ce besoin irrépressible de bouger pour se soulager. Alors pour mieux comprendre ce qui cause ce problème et surtout comment le traiter, nous recevrons la neurologue Nathalie Pat-Carsenti. Ensuite, désormais la beauté, ce sera le lundi. Benjamin Lévesque sera avec nous pour nous aider à nous faire beau dès le début de la semaine. Alors aujourd'hui, notamment parce que le printemps est là, ça y est, il nous parlera de l'intérêt des fleurs dans les cosmétiques. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle s'intéressera à ces complexes physiques qui peuvent perturber les rapports sexuels.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va commencer par cette question de Pauline. Elle a 42 ans. Écoutons-la.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Je vous appelle parce qu'en fait, il y a un an, j'ai été opérée d'une rectopexie, donc suite à un prolapsus rectal. Donc j'ai été opérée il y a un an, pas par phalloscopie, mais avec une ouverture en bas du ventre. Et ce qui se passe, c'est que depuis, j'ai un ventre énorme, comme un ballon de foot, et je suis désespérée. Si vous avez une explication à me donner ou une façon de résoudre le problème, je vous remercie beaucoup.
Alors, pour vous répondre, Pauline, de façon très précise, nous avons fait appel au docteur Jean-Marc Sabaté, gastro-entérologue à l'hôpital Avicenne. On l'écoute.
La rectopexie, c'est une intervention en fait, qui est faite pour traiter une descente d'organes, en l'occurrence souvent une descente du rectum. C'est chez des gens constipés qui ont souvent poussé leur vie et donc les organes sont un petit peu plus lâches et peuvent même s'extérioriser parfois par l'anus. Donc on refixe ça sur des structures osseuses, mais ça peut aggraver une constipation qui existait déjà. Et donc, il faut essayer d'entretenir un transit avec des laxatifs doux qu'on peut prendre régulièrement, voire des petits lavements. Après, si ça ne suffit pas et qu'elle est très ballonnée malgré un transit qui se fait bien, il faut peut-être voir si elle prend des aliments qui favorisent les fermentations et essayer de les réduire.
Voilà, c'était le docteur Sabaté au micro de Valentin Piovesan. Alors Jimmy, à présent, on va prendre une autre question pour vous, cette fois-ci, celle que nous a envoyée Gabriel. Il nous a appelé de Paris, écoutez bien.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. J'ai une petite question, je suis papa de 3 enfants. Mon dernier de 9 ans a des sautes d'humeur, parfois assez violents. Il est tout le temps en conflit avec ses 2 sœurs, il arrive même à les taper. Du coup, avec ma femme, on est un peu désemparés, on se demande si notre fils ne serait pas hyperactif. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup, continuez ce que vous faites.
Merci beaucoup Gabriel. Jimmy, alors ce que décrit ce papa, est-ce que ça peut ressembler à de l'hyperactivité? Parce que je crois que le diagnostic, il n'est pas si simple que ça. Hein.
Exactement, le diagnostic est difficile, donc je n'aurais pas la prétention de dire ce que ça peut être ou ne pas être. Là, ce qu'il décrit ressemble un peu à de l'impulsivité, qui peut faire partie justement du trouble déficitaire de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Faut bien comprendre que c'est pas une maladie, c'est un trouble qui va associer 3 symptômes globalement, d'une intensité plutôt variable, avec un déficit de l'attention, c'est souvent ça qui est reproché ou reporté, une hyperactivité et puis de l'impulsivité. L'hyperactivité, c'est un enfant qui va être agité en permanence, qui aura du mal à rester en place. L'impulsivité, c'est l'enfant qui aura du mal à attendre, qui va être en permanence frustré. Ce que semble décrire l'auditeur, même si encore une fois, le diagnostic met du temps, il y a souvent un retard justement diagnostique à ce trouble.
Il parle d'un enfant de 9 ans. Est-ce qu'à cet âge-là, en tout cas, on doit pouvoir faire le diagnostic? Parce qu'on en a eu déjà pas mal de questions de parents qui nous appellent pour nous demander si tel ou tel symptôme, c'est effectivement de l'hyperactivité. À 2-3 ans, on peut pas, c'est plus difficile, non? J'imagine,
non,
9 ans, on doit
ans,
savoir.
Hein. À 2 ou 3 ans, c'est difficile de poser le diagnostic. Un enfant agité, un peu turbulent, n'est pas
ans,
un enfant
normal,
hyperactif.
Oui.
Je dis, il faut vraiment qu'il y ait au moins un déficit, par exemple, de l'attention, avec un enfant qui aura du mal à capter justement l'attention, à terminer une tâche, qui va oublier fréquemment ces choses. C'est souvent des enfants qu'on dit rêveurs, la tête dans les nuages.
C'est avec le début de l'école en général qu'on se rend compte
exactement,
de ça. Hein,
qui va être distrait assez facilement et qui va éviter certaines tâches qui vont nécessiter une attention accrue, comme s'il comprenait que ça allait être difficile. Alors, il faut bien comprendre que le diagnostic est souvent posé avant l'âge de 12 ans et c'est en général aux alentours de 5-6 ans qu'on le pose, même si encore une fois, on le sait, c'est plus de garçons que des filles qui vont être touchés. 2 à 3 fois plus de garçons que de petites filles.
D'accord, justement, quand, donc là, si ce papa veut en avoir le cœur net et faire un diagnostic, comment ça se passe? Comment on pose ce diagnostic?
Alors, faites-vous confiance, j'ai envie de vous dire, si vous avez l'impression que votre enfant est différent des autres, parlez-en à votre médecin, qui est le médecin de premier recours, qui va regarder s'il y a d'autres choses à côté, des troubles de l'apprentissage, comme une dyslexie, des troubles du sommeil, puisque l'enfant hyperactif a des troubles du sommeil associés, des difficultés relationnelles. Et c'est ce qu'il semble décrire, notamment avec justement des liens sociaux, qui vont moins bien se faire. L'école aussi est souvent un bon marqueur, puisque les professeurs, normalement, sont censés être un peu formés pour repérer les enfants un peu différents des autres.
Et dire, tiens, là, il faut faire peut-être un
Exactement.
Bilan.
Exactement. Hein, et à ce moment-là, on va faire plusieurs consultations sur une durée de 6 mois pour être pris en charge de façon globale, car il n'y a pas de traitement miracle à ce syndrome.
Voilà, j'allais vous dire, comment on fait pour améliorer le quotidien de ces enfants ? Est-ce qu'il y a des traitements ou est-ce que c'est des aménagements du quotidien ?
Eh bien, c'est un peu des deux. On veut absolument que l'enfant garde du lien social, c'est-à-dire qu'il ne soit pas exclu des autres petits camarades. Donc, on veut qu'ils aient des copains, c'est le premier objectif. Deux, qu'il n'y ait pas de retard aux apprentissages à l'école. Et trois, que ça se passe bien à la maison. Si tout ça est mis en place, eh bien, on laisse l'enfant tranquille. En revanche, on prend en charge l'enfant et la famille, on fait des thérapies familiales, puisque je vais vous donner un seul exemple. Un enfant qui est un peu hyperactif, en permanence, il va bouger son pied. Si vous lui dites d'arrêter, vous allez le frustrer. L'enfant hyperactif qui bouge son pied en permanence cherche à recharger sa dopamine. Donc il faut éduquer les parents à l'enfant
hyperactif.
Laisser
bouger le pied par exemple, c'est
ça ? Exactement, on le laisse tranquille. Donc il faut éduquer la famille et puis dans un second temps, on peut, quand on n'a pas le choix, proposer un traitement, ce qu'on appelle la Ritaline notamment. Ça marche très bien, mais en gros, le message que je vais vous faire retenir, faites-vous suivre et n'hésitez pas à consulter.
Très bien, merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout pas d'hésitation.
Europe 1.
Dans un instant, on place à notre invité du jour, c'est la neurologue Nathalie Patkarsanti qui vient nous éclairer sur le syndrome des jambes sans repos, les jambes impatientes, un problème de santé qui n'est pas grave en soi mais qui peut néanmoins grandement détériorer la qualité de vie. On vous explique comment on le dépiste et comment on le traite. On vous dit tout très vite, restez bien avec nous sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé Bien-être. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h, bien sûr. Alors, c'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, docteur Nathalie Patkarsanti. Bonjour.
Bonjour, Mélanie.
Vous êtes neurologue dans l'unité Parkinson de l'hôpital de la Fondation Rothschild à Paris. Et donc, avec vous, on va décrypter ce syndrome des jambes sans repos, qu'on appelle aussi les impatiences dans les jambes. Est-ce que vous pouvez nous rappeler de quoi on parle concrètement ?
Alors, quand on parle du syndrome des jambes sans repos, c'est vraiment cette envie impérieuse, comme vous l'avez dit, de bouger ses jambes. Et c'est plus ou moins associé à des sensations désagréables, qui peuvent être d'intensité variable, qui peuvent être de la sensation juste de picotement, de chaleur, d'inconfort, jusqu'à des véritables douleurs ressenties de façon intense. Et ces symptômes, c'est vraiment la définition clinique, apparaissent au repos, plutôt le soir ou la nuit, mais au repos aussi, et sont soulagés par le fait de faire le mouvement.
Alors là, vous parlez de certains symptômes, mais si on se met à la place des auditeurs, ils vont se dire, mais attendez, est-ce que ça a un lien avec les jambes lourdes ? Est-ce que d'emblée, on peut dire que...
Ce sont des jambes douloureuses
c'est
aussi.
C'est des choses complètement différentes.
Oui, c'est pas tout à fait... C'est pas la même... C'est vrai que le diagnostic est pas toujours facile à faire, parce que c'est un diagnostic essentiellement clinique et d'interrogatoire, et que les sensations que ressentent les patients sont pas toujours facilement exprimées. Donc ils peuvent exprimer ce syndrome des jambes sans repos en disant finalement que c'est comme des jambes lourdes, mais c'est à distinguer des véritables jambes lourdes qui sont liées plutôt à une insuffisance veineuse. D'accord. En sachant que quand on a une insuffisance veineuse, ça peut effectivement titiller un syndrome des jambes sans repos et aggraver en fait les symptômes.
Est-ce qu'on a une idée du nombre de patients concernés en France et de leur profil ? Je crois que c'est quelque chose qui touche plus les femmes que les hommes déjà. Hein.
Alors en fréquence, c'est très important. C'est quasiment 10% de la population, donc ça fait un chiffre qui est... C'est une maladie fréquente. En sachant que dans ces 10%, on a 2,5% des gens qui en souffrent de façon quotidienne. Si on verra... les symptômes sont variables et pas toujours permanents. C'est effectivement plus les femmes, presque le double des femmes par rapport aux hommes. Et voilà, c'est à peu près les statistiques. Et ça arrive un peu à n'importe quel âge, mais plutôt autour de la trentaine, de la quarantaine.
Donc, même assez si, jeune, ouais. Voilà.
Donc vous l'avez dit, on n'en souffre pas forcément tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a des phases où ça va et d'autres où ça ne va pas.
Exactement. Il y a vraiment des moments très, très, très variable. Alors, au cours de la journée, bien évidemment, puisqu'on a dit que c'était plutôt au repos, le soir, au moment de l'endormissement ou quand on est en position de repos. Mais dans des périodes de la vie, on peut ne pas être gêné du tout et être très gêné à un moment donné. Les femmes enceintes, par exemple, au moment de la grossesse, peuvent découvrir leur syndrome des jambes sans repos et ne l'avoir qu'à ce moment-là et ne plus l'avoir après.
Question peut-être idiote, est-ce que ça touche toujours les deux jambes ou est-ce que ça concerne qu'une jambe ?
C'est généralement les deux jambes. Quand ça touche une jambe, là, il faut aller rechercher une cause sous-jacente. On en parlera tout à l'heure entre je pense, entre les syndromes des jambes sans repos primaires ou secondaires.
Et ces symptômes se manifestent essentiellement la nuit ou on peut aussi en souffrir en journée, à midi, en étant même allongé? Si on fait une sieste, est-ce qu'on peut en souffrir?
Tout à fait. C'est vraiment le fait d'être au repos. Donc c'est la nuit parce que c'est généralement cette période-là.
C'est là qu'on est le plus longtemps au repos. Voilà. En général, ouais.
Mais les gens qui souffrent de symptômes relativement sévères peuvent être gênés au moment de la sieste, mais aussi dans les moments où on est assis, c'est-à-dire pendant des spectacles, pendant un trajet en voiture quand on est passager, tous les moments où en fait on a nos jambes finalement au repos immobile.
Alors c'est quelque chose, je crois, qu'on classe dans les troubles du sommeil pour bien comprendre. Est-ce que c'est quelque chose dont, quand les gens ils sont vraiment gênés la nuit, est-ce qu'ils ont ça vraiment toute la nuit ou bien c'est par crise, je ne sais pas, quelques minutes et puis ça passe? Est-ce qu'ils ont vraiment une qualité de sommeil qui est très altérée?
Alors, dans la plupart des cas, donc presque 80% des cas en fait des syndromes des jambes sans repos, on a ce qu'on appelle des mouvements périodiques de jambes. Et ces mouvements périodiques de jambes viennent perturber la nuit. Et alors, ces réveils peuvent être réels, c'est-à-dire que, peuvent être vraiment perçus. Mais il peut y avoir ces mouvements périodiques de jambes qui sont éveillants, mais à un temps finalement d'éveil tellement court que la personne ne s'en rend pas compte. Et il y a des gens qui, quand on fait l'enregistrement du sommeil, ont des mouvements périodiques éveillants 30, 40, 50 fois par heure.
Ah oui.
Et donc, ça veut dire que c'est comme s'ils faisaient des nuits blanches. En fait, ils sont éveillés tout le temps.
Et donc, justement, si eux ne s'en rendent pas compte, est-ce qu'à l'inverse, le conjoint ou la conjointe peut dire elle n'arrête pas de mener des coups de pied, ça gâche
le
sommeil?
Alors, souvent, les mouvements périodiques sont...
Je donne des coups de pied, mais c'est pour qu'il arrête de ronfler. C'est un autre problème
de sommeil. Alors, souvent, les mouvements périodiques, il peut y avoir des à-coups, mais c'est surtout des gens qui bougent beaucoup dans le lit. Et les mouvements périodiques de jambes qui sont décrits sont plutôt des mouvements peu amples. Donc, ça, c'est pas à taper son conjoint. C'est plutôt d'autres problèmes de sommeil qui donnent ça. Mais c'est vrai que les gens le ressentent parce qu'en fait, ils se réveillent. Enfin, la question qu'on pose dans les syndromes des jambes sans repos quand c'est associé à des troubles du sommeil, c'est vraiment de se dire qu'ils se réveillent avec un repos qui n'est pas du tout réparateur. Ils se réveillent comme s'ils n'avaient pas dormi, alors que ils n'ont pas l'impression forcément de s'être réveillé plusieurs fois.
On l'appelle le syndrome des jambes sans repos, mais est-ce que ça pourrait pas peut-être toucher d'autres membres, les bras ou même, j'en sais rien, d'autres parties du corps?
Alors les bras, oui, vous avez tout à fait raison.
On a les jambes et les bras sans
tout
repos,
à fait.
D'accord.
Et ben c'est quasiment 50% des gens qui, dans les formes un peu sévères, ont les bras aussi qui sont impatients.
Ah oui, carrément. Docteur Pat Carcenti, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes, vous restez bien avec nous.
Europe 1.
Dans son rendez-vous, cet après-midi, on fait le point sur un syndrome très handicapant, celui des jambes sans repos, des jambes impatientes. Que sait-on à ce stade de l'origine de ce trouble essentiellement féminin, on vient de le dire? Comment en fait-on précisément le diagnostic? On vous dit tout bien dans le détail dans un instant. A tout de suite sur Europe 1.
Son rendez-vous sur Europe 1.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors notre invitée, elle est toujours en studio avec nous, c'est vous, docteur Nathalie Pat-Carcenti. Vous êtes neurologue dans l'unité Parkinson de l'hôpital de la Fondation Rothschild à Paris. Et donc on fait le point cet après-midi sur le syndrome des jambes sans repos. À présent, on va parler des causes de ce trouble qui est encore assez mystérieux, je crois. Alors à quoi c'est dû? Est-ce qu'on a déjà quelques petites idées?
Alors, on a des petites pistes qui sont essentiellement sur, quand on parle du syndrome des jambes sans repos primaire, qui sont la piste du fer et de la dopamine. C'est probablement un défaut d'intégration ou de modulation, effectivement, à partir de ces deux...
On manque de dopamine, quoi.
Oui, on manque de fer et on manque de dopamine. Alors, quand on manque de fer, effectivement, c'est une des premières choses qu'on recherche et on la supplémente, c'est la première action à faire. Mais on sait que c'est chez certains patients, il y a trop de fer et ils peuvent aussi avoir un syndrome des jambes sans repos. Donc c'est vraiment
ça explique
une espèce
pas tous
d'équilibre.
Les cas,
ouais. Non, il y a des boucles en fait entre la sensibilité et la motricité au niveau médulaire qui sont déséquilibrées.
Et je crois que les femmes, du coup, vous l'avez dit, sont un peu plus touchées que les hommes. Est-ce qu'on le sait pourquoi plus les femmes que les hommes?
Alors il y a différentes hypothèses. Celle du manque de fer, les femmes sont très souvent, de par leur cycle menstruel, plus carencées en fer, donc ça peut être une hypothèse, mais on a encore beaucoup d'inconnus.
Elles consultent plus aussi peut-être que les hommes, c'est peut-être pour ça qu'elles sont surreprésentées.
Peut-être, ouais. Et puis comme il y a les grossesses qui sont à un moment où il y a parfois une insuffisance veineuse, parfois le manque de fer, et que ça déclenche à ce moment-là, ça peut être aussi une des raisons précipitantes finalement pour la consultation.
Est-ce qu'il pourrait y avoir une origine génétique ou héréditaire? Est-ce que vous avez des familles, par exemple, où il y a plusieurs membres qui souffrent du syndrome des jambes en repos?
Il y a très certainement une prédisposition génétique. Il n'y a pas de gène proprement identifié.
Parce qu'on s'en fiche, en fait, hein, c'est ça, parce que c'est pas quelque chose de grave. Il faut
non,
quand
c'est
même
pas
le
parce
dire.
Qu'on s'en fiche,
on n'a pas cherché
parce
de gène
dans...
en tout cas.
Mais c'est pas qu'on n'en a pas cherché, mais c'est qu'on n'en a pas trouvé. C'est-à-dire que souvent dans nos maladies neurologiques, on a une partie de prédisposition génétique, plus une partie d'environnemental, plus une partie d'infectieux, et tout ça mis bout à bout fait que la maladie apparaît ou pas. On a des chiffres quand même dans les fratries. Si on a un frère ou une sœur effectivement qui sont touchés, on a autour de 3 à 4 fois plus de risque d'avoir le syndrome des jambes sans repos. Et quand on a un parent, c'est le double de risque d'avoir un syndrome des jambes sans repos.
Est-ce que certaines maladies peuvent déclencher ou favoriser un syndrome des jambes sans repos?
Oui, tout à fait. Alors là, on est plus dans les syndromes des jambes sans repos secondaires. Quand on a une neuropathie, c'est-à-dire une maladie des nerfs qui peut être liée à un diabète, à un manque de vitamines, à une consommation excessive d'alcool, ça va précipiter ou favoriser ce syndrome des jambes sans repos. Quand on a une insuffisance rénale, donc une maladie des reins, c'est le cas aussi.
La maladie de Parkinson.
On peut avoir des syndromes des jambes sans repos associés à la maladie de Parkinson, même si, je le précise tout de suite, parce que les gens qui disent le docteur Patrick Arsenti est dans l'unité Parkinson et là, il nous parle des syndromes des jambes sans repos. Le syndrome des jambes sans repos n'est pas un facteur
qui cause la Parkinson.
Non,
voilà,
ça n'est pas précurseur du Parkinson, mais quand on a une maladie de Parkinson,
on peut avoir ça aussi.
Effectivement, d'où l'hypothèse aussi que la dopamine entre en jeu dans ce symptôme.
Du coup, est-ce que c'est au décours d'une consultation justement pour les jambes sans repos que vous pouvez être amené, même si c'est pas, vous l'avez dit, les jambes sans repos ne mènent pas à Parkinson, mais est-ce que du coup, à ce moment-là, vous pouvez pas découvrir, je sais pas, un problème de thyroïde et que justement, si c'est la cause, c'est la maladie sous-jacente.
Tout à fait. Ouais. Et c'est pour ça que quand on a une suspicion de syndrome des jambes sans repos, c'est important de consulter quelqu'un qui connaît la maladie pour en première
vérifier qu'il n'y a pas quelque chose de grave,
vérifier qu'il n'y a pas autre chose et qu'on est bien dans un syndrome des jambes sans repos primaire. Et si on est dans un syndrome des jambes sans repos primaire, en fonction de l'intensité, le traiter ou pas.
Et du côté des médicaments, est-ce que certains peuvent déclencher ou favoriser justement ce syndrome?
Oui, tout à fait. Certains neuroleptiques qu'on utilise dans les pathologies plutôt psychiatriques, mais peuvent aggraver ce syndrome des jambes sans repos. Et puis les antidépresseurs qui sont pris de façon quand même de façon conséquente en France, peuvent aggraver le syndrome des jambes sans repos.
On va parler du diagnostic à présent. Les patients actuels, est-ce qu'ils consultent déjà dans les temps? Je veux dire, est-ce qu'on consulte assez pour ça? Et à partir de combien d'épisodes d'ailleurs de problèmes la nuit, comme ça, de jambes sans repos, il vaudrait mieux consulter?
Alors, ils consultent de plus en plus. C'est quand même... alors, même si la définition, finalement, du syndrome des jambes sans repos, elle remonte à 1672.
Ouais, c'est vieux.
Donc, c'est quand même très vieux. On a quand même mieux caractérisé le syndrome à partir de 1995. Dans les années 2000, on a commencé à mieux donner les caractéristiques et à être moins confondant dans le diagnostic. Donc oui, ils consultent plus. Même si c'est encore, comme c'est une pathologie bénigne, c'est pas toujours pris en compte. Et puis je vous dis...
Invalidante mais bénigne.
On ne meurt pas dans le syndrome des gens sans repos. Effectivement, comme il y a de l'anxiété, enfin voilà, on met ça sur le compte de l'anxiété. Ben oui, il a des impatiences, il bouge trop, enfin voilà. Mais à partir de quand, c'est difficile à dire. C'est difficile à dire à partir de quand. C'est quand la gêne, quand on a un sommeil qui n'est pas réparateur, quand on est fatigué dans la journée, quand on est très inconfortable, quand on est douloureux. Les gens consultent généralement.
Ouais. Et justement, quand on fait le diagnostic, on n'a pas d'examens qui peuvent le prouver formellement. C'est ça, c'est un diagnostic clinique?
Alors, c'est essentiellement un diagnostic clinique et ça doit rester un diagnostic clinique. Mais il y a quelques examens que l'on peut faire. D'abord, si on a un doute sur une pathologie associée comme une neuropathie, on va proposer de faire un électromyogramme ou si on a des signes cliniques qui peuvent évoquer ça. Et puis, si vraiment, après les thérapeutiques classiques, dont on parlera sans doute après, on n'a pas de réponse ou une mauvaise réponse, on peut faire un enregistrement du sommeil et identifier, durant cet enregistrement du sommeil, les micro-éveils et puis les mouvements périodiques de jambes.
Docteur Patrick Arsenti, on va continuer cet entretien dans quelques minutes. Europe 1. On revient très vite avec cette émission dans laquelle on vous dit tout sur le syndrome des jambes sans repos. Des patients souvent très handicapés par ce trouble qui perturbe évidemment leur nuit, mais peut conduire également à une grande fatigue générale. Alors comment les prend-on en charge? Peut-on traiter efficacement ces jambes impatientes? On y revient très vite. À tout de suite sur Europe 1. Vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous. Elle nous accompagne cet après-midi. C'est vous, docteur Nathalie Patkarsenti. Vous êtes neurologue dans l'unité Parkinson de l'hôpital de la Fondation Rothschild à Paris. Et donc, on parle toujours des jambes sans repos cet après-midi. Alors, admettons, on a un patient, le diagnostic est confirmé. Il a bien un syndrome des jambes sans repos. Vous l'avez constaté en consultation. Vous avez des solutions. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et d'abord, vous commencez, je crois, par des conseils hygiéno-diététiques dans lesquels vous donnez quoi comme astuce aux patients déjà ?
Alors déjà, la première chose, c'est effectivement de vérifier s'il n'a pas un manque de fer. C'est une des premières choses qu'on fait. Et s'il en a un manque, et dans ces cas-là, on va le supplémenter.
Après, dans les règles hygiéno-diététiques,
Pour rester dans le fer, éviter par exemple de consommer beaucoup de thé vert. Parce que le thé vert, ça fait fuir le fer. Donc les gens qui drainent avec des litres de thé vert, ça peut effectivement faire évacuer le fer et donc majorer le syndrome des jambes sans repos. Ensuite, effectivement, on va leur proposer de faire certaines choses, éviter les excitants en fin de journée. Surtout, évidemment, ouais. Si déjà ils ont un sommeil perturbé, on va éviter le café, on va éviter
l'alcool.
On va éviter aussi de faire une activité sportive après 15 heures, parce qu'une marche prolongée, typiquement la salle de sport avec le sauna derrière, généralement, la nuit, elle est catastrophique.
Terrible pour ces gens-là, ouais.
Est-ce que du côté des médicaments, on peut aussi faire un peu le ménage ? Vous avez dit que certains antidépresseurs peuvent favoriser la maladie, mais du coup, si on
arrête... On ne va pas dire aux gens de les arrêter.
C'est ça le problème. Neuroleptiques, c'est compliqué.
Voilà, non, c'est évidemment compliqué.
Aucun patient qui nous écoute qui souffre de ça, bien sûr, n'arrête son traitement
sans consulter. C'est une évidence. Et on trouve d'autres solutions quand on le fait. Mon propos était plutôt de dire qu'on peut parfois prendre... pour de l'anxiété et de la dépression, des conséquences finalement psychologiques d'un syndrome des jambes sans repos non traité. Et que dans ces cas-là, il ne faut pas rajouter une couche. Mais c'est vrai qu'on discute et on voit et on identifie les médicaments. Si les médicaments sont obligatoirement fondamental, bien sûr qu'on ne l'arrête pas.
On donnera autre chose
pour compenser.
Alors justement, passons aux médicaments qui sont possiblement prescrits dans cette indication des jambes sans repos. Il y en a trois types. D'abord, des médicaments qui agissent sur la dopamine, finalement, sont les mêmes qu'on utilise dans la maladie de Parkinson, hein, c'est ça ?
Tout à fait. Ce sont les mêmes traitements. Ce sont les agonistes dopaminergiques. Ils ont une demi-vie qui est relativement longue. Parce qu'au tout début du syndrome des jambes sans repos, on donnait parfois de la dopamine, comme du Modopar ou du Sinemet, qui sont de la dopamine. Mais la demi-vie est courte. Donc pour des gens qui avaient des problèmes pour toute la nuit, ça finissait par avoir des effets rebonds, donc ça avait un petit intérêt dans l'endormissement, mais après, on était moins bien. Donc effectivement, ces médicaments sont à utiliser.
Ça donne souvent des bons résultats ?
Alors, ça donne de très bons résultats quand c'est adapté. C'est à toute petite dose, mais même à petite dose, il faut prévenir les gens des effets secondaires possibles, d'addiction en particulier, puisque ce sont ces médicaments qui peuvent parfois donner des addictions aux jeux, les achats, etc.
Donc le savoir avant de le prendre.
Donc il faut bien prévenir les gens et les prendre. Après, il peut y avoir un peu des nausées. Enfin, il y a toujours certains effets secondaires.
Et comment ils font pour gérer, puisque vous avez dit que c'est une maladie fluctuante, c'est-à-dire qu'il y a des moments où peut-être ils n'ont pas besoin de traitement et ils doivent l'arrêter d'eux-mêmes. Est-ce qu'on se dit on fait un mois, deux mois de traitement ? Comment ça se passe ?
Souvent, quand ils viennent consulter, c'est qu'ils sont quand même déjà très gênés. Hein, les gens, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 10% de la population, mais il n'y a pas 10% de la population qui consulte pour les syndromes des jambes sans repos. Donc il y a 2,5% de gens qui en souffrent quotidiennement. Et parmi ces gens-là, il y a encore un petit nombre qui consultent. Donc généralement, quand ils se consultent, c'est qu'ils ont envie d'avoir un traitement. Moi, il m'est arrivé, quand les gens ne veulent pas prendre de médicaments, effectivement, de médicaments en allopathie, de leur proposer parfois, outre les règles hygiéno-diététiques, parfois un peu d'homéopathie. Ça peut fonctionner dans certains cas. Je le propose aux femmes enceintes parce qu'il n'y a pas de possibilité de donner autre chose.
Donc après, parfois, le pouvoir de la suggestion marche très bien.
Exactement.
Les anti-épileptiques et les dérivés morphiniques, donc deuxième ligne et troisième ligne, on va dire. Ça fonctionne comment ?
Ce n'est pas forcément de la deuxième ligne, parce que les anti-épileptiques comme la pregabaline, qui sont données à petite dose là aussi, qui sont des anti-épileptiques qui agissent aussi, qui ont l'indication dans les douleurs neuropathiques, fonctionnent très bien dans le syndrome des jambes sans repos. Et comme on a eu ces problèmes d'addiction avec les agonistes dopaminergiques, parfois
c'est le premier qu'on prescrit.
On les donne en première intention avec de bons résultats. Et après, c'est surtout le but est de leur donner des stratégies qui gèrent en partie eux aussi en fonction des douleurs, de l'importance des symptômes et du moment de leur maladie.
Est-ce qu'on peut penser à des choses alternatives comme l'hypnose par exemple ? Est-ce que c'est quelque chose d'acceptable ou qui peut marcher ?
Tout à fait, parce que on se rend bien compte que quand ces gens souffrent d'un syndrome des jambes sans repos, ils déstructurent leur sommeil et le sommeil est finalement associé à quelque chose d'angoissant. Ils vont au lit en se disant « Ah, je ne vais pas dormir, je vais avoir mal aux jambes.
Cercle vicieux.
C'est un cercle vicieux. Donc, ils associent le sommeil à quelque chose de désagréable. L'hypnose peut permettre justement de réassocier le sommeil à quelque chose de réconfortant, de réparateur. Et du coup, d'aller dans le bon sens.
Merci beaucoup, docteur Patkarsentier, d'avoir été avec nous pour décrypter le syndrome des jambes sans repos. Et on a bien compris qu'il y a de multiples solutions pour le soulager. Plus question de souffrir sans broncher. Merci encore.
Europe 1.
Dans un instant, une petite brise printanière dans ce studio avec la chronique beauté de Benjamin Lévesque. Il a décidé de nous parler du pouvoir des fleurs. Fleurs qui sont très présentes dans nos cosmétiques. Il va nous expliquer pourquoi. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Et à présent, il est temps de passer, de soigner votre apparence avec la routine beauté de Benjamin Lévesque. Alors depuis ce week-end, ça y est, c'est le printemps et pour l'occasion, Benjamin, vous allez nous parler des fleurs. Si elles sont très jolies dans nos jardins, elles sont aussi très utiles dans nos cosmétiques.
Et oui, au-delà de la bonne odeur, les fleurs recèlent de trésors pour notre peau. Et ça, on le sait depuis des millénaires, comme le raconte Kathleen Emery. Elle est responsable des soins de la peau chez Mavala.
Déjà Cléopâtre, qu'on connaît très soucieuse de sa beauté, faisait macérer des pétales de rose dans de l'huile qu'elle appliquait ensuite sur son visage pour préserver la jeunesse de sa peau. Donc au temps de l'Égypte antique, il y avait déjà des potions, des onguents, des lotions et même des cataplasmes issus de la botanique.
Et aujourd'hui, il suffit de regarder dans les placards de votre salle de bain pour y retrouver des crèmes anti-âge composées d'extraits de fleurs.
J'irai faire un tour, mais est-ce qu'on peut utiliser n'importe quelle fleur, Benjamin ?
Vous qui aimez les géraniums, hein, par exemple. <C'est ça. rire>
Alors théoriquement, on pourra utiliser les 250 000 fleurs aujourd'hui répertoriées dans le monde entier, puisqu'elles ont toutes cette capacité à être hydratantes. Mais c'est vrai, chaque fleur est unique et donc aura des bienfaits particuliers. Par exemple, la plus utilisée dans les cosmétiques, c'est la rose, parce que c'est la championne du renouvellement cellulaire et elle a des vertus anti-inflammatoires, donc c'est vraiment une alliée précieuse pour toutes les crèmes anti-âge.
Alors Jimmy, qui est passionné par cette chronique, est-ce que Benjamin, vous avez trouvé pour lui une fleur en particulier qui pourrait l'aider à avoir une peau plus saine, plus jolie ?
J'ai bien cherché. Ou une fleur pour les mycoses de Mélanie, peut-être ?
J'ai bien cherché. Oui, je vous ai dégoté la fleur parfaite pour les peaux à imperfection. C'est l'hibiscus. Et comme le dit Juliette Minos, cofondatrice de la marque La Canopée, elle est très utilisée contre les points noirs et les boutons.
On fait une infusion pour réussir à extraire tous ces acides de fruits qui ont un pouvoir kératolytique, c'est-à-dire qu'on l'utilise pour aider à exfolier la peau. On peut l'utiliser une fois par semaine pour les peaux normales et peau à imperfection, on conseille de l'utiliser très, très régulièrement parce que ça aide vraiment à la cicatrisation des boutons et ça aide le renouvellement cellulaire.
Et donc c'est l'hibiscus hein, pour Jimmy, c'est ça qu'on a compris.
Et il ne faut pas forcément se fier à l'odeur d'une fleur. En clair, ce n'est pas parce qu'elle sent bon qu'elle sera obligatoirement incroyable pour votre peau. Et inversement, pour Juliette Munoz, une mauvaise odeur cache parfois des vertus éclatantes.
Il y a des fleurs qu'on utilise par exemple comme la camomille romaine qui a une fragrance qui n'est pas tout à fait agréable. Mais on l'utilise pour ses propriétés pour la peau parce qu'elle est très apaisante et calmante. Donc pour les peaux plutôt sensible et réactive. Et donc, on ne va pas particulièrement choisir une fleur pour sa fragrance.
Et une fleur très appréciée pour lutter contre les taches brunes sur la peau ou les rougeurs, c'est le lys, puisqu'il a des propriétés éclaircissantes. Donc, la fleur de lys est parfaite pour redonner un coup d'éclat au visage.
Et Benjamin, est-ce qu'on peut choisir une fleur en fonction de l'endroit où est-ce qu'elle pousse ?
Ben oui, certaines arrivent à survivre dans des conditions environnementales extrêmes. Hein, ce qui fait d'elle bien une source précieuse de substances protectrices pour notre peau. C'est le cas de la rose des Alpes, comme l'explique Catherine Emmerich.
Cette rose des Alpes est absolument fascinante parce qu'elle pousse à très haute altitude. Donc vraiment, c'est une fleur du froid, c'est une fleur des extrêmes. C'est pour ça qu'on l'appelle fleur extrémophile. Elle subit un froid intense en hiver, mais en même temps un rayonnement UV intense en été. Elle est soumise au vent, elle est soumise à la sécheresse et pour autant, elle a la capacité de garder ses feuilles vertes toute l'année. Et donc pour nous, c'est une source d'inspiration phénoménale pour le futur des cosmétiques. Cette fleur a la capacité en elle-même de s'auto-générer, de s'auto-régénérer plus exactement. Et grâce aux cellules souches, on va pouvoir transférer ça à la peau.
Bon, pour finir, Benjamin, qu'est-ce qu'on utilise dans la fleur ? Parce que Jimmy est en train de passer une commande d'hibiscus, il voudrait savoir comment s'en servir.
Alors, il n'y a pas vraiment de règle, en fait. Tout dépend où se trouvent les propriétés dans le végétal. Pour la lavande, par exemple, on peut utiliser la fleur entière. Pour le romarin, on aura tendance à exploiter la tige. Et les nénuphars, eh bien, il faudra puiser dans les racines pour en tirer le pouvoir des fleurs.
Changer le monde, changer
Merci beaucoup Benjamin pour ce côté très printanier aujourd'hui dans cette chronique beauté. Un peu de musique en plus pour terminer, ça fait du bien. Merci encore.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission, vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo de Catherine Blanc. À tout de suite.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette ultime séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Alors aujourd'hui, Catherine, il va falloir répondre à la question de Lucie, je vous la lis. Je suis quelqu'un de très complexé, même avec mon copain, au lit, pour vous dire, on doit faire l'amour dans le noir, et sinon je suis complètement bloquée. Comment puis-je affronter ma timidité et mes complexes sexuels pour éviter de faire fuir mon copain ? Catherine, c'est quand même assez fréquent, non, dans les jeunes couples comme ça. Bon, au début, en tout cas, on fait plutôt dans le noir. Il y a de la timidité quand on se découvre. Petit à petit, parfois, il faut baisser la lumière au départ.
Oui, parce que ça permet de pouvoir être plus facilement en contact avec son émotionnel, avec ses fantasmes, avec justement l'obligation d'aller rechercher intuitivement l'autre plutôt que d'être confronté à la crudité de son regard et de son, en fait, en réalité, de son propre regard sur nous-mêmes et sur ce que nous sommes en train d'acter, de jouer. En fait, ce qui nous fait peur dans la sexualité, qui plus est avec quelqu'un que l'on rencontre alors qu'on soit jeune ou que l'on rencontre pour la première fois, c'est que va-t-il penser de moi ? Et selon le degré de confiance que nous avons en nous, eh bien, c'est plus ou moins facile d'accepter le regard de l'autre. En fait, ce que nous n'aimons pas chez l'autre, c'est notre propre regard projeté sur l'autre. Alors après, l'autre peut être très indélicat, mais la réalité, c'est que ce qui nous gêne le plus, c'est notre propre jugement sur nous-mêmes, d'où le fait que nous éteignons la lumière pour essayer de nous éloigner de ce regard cruel.
Et à l'inverse, avoir des rapports sexuels en pleine luminosité, c'est pas non plus courant, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé non plus d'être en plein jour. Est-ce qu'on cherche toujours à avoir un peu de, pas d'obscurité, mais même quelque chose de tamisé? Est-ce que c'est courant d'avoir des rapports sexuels en plein jour, lumière allumée, rideau ouvert?
Bah, Jimmy, c'est chandelle. Hein,
non, mais vous avez raison. Il y a des gens qui mettent, vraiment, c'est la table d'opération avec les néons bien blancs, etc. Hein, ça fait partie...
Des guirlandes, trois lampes.
C'est vous qui étiez dans les salles de garde. Vous savez très bien que le fantasme de certains peuvent tout à fait s'accommoder des pleins feux, etc. Mais c'est vrai que la lumière, ne serait-ce qu'un peu tamisée, qui n'empêche absolument pas de voir, puisqu'on sait très bien que nos yeux s'accoutument à l'obscurité. On finit par très bien voir l'autre, et une lumière douce, c'est une lumière caressante et plutôt flatteuse pour le réalisateur ou la réalisatrice que nous serions de nos fantasmes et de nos ébats.
Dans le cas de Lucie, on sent bien par contre, c'est pas une histoire d'ambiance. Si elle baisse la lumière, si elle éteint, elle fait ça dans le noir complet comme elle le décrit, c'est parce qu'elle a un problème avec son corps aussi. Donc il y a des complexes. Et là, c'est peut-être plus problématique quand même.
Bien sûr, bien sûr. Et le problème, c'est que de toute façon, c'est une erreur de penser qu'il n'y a que les yeux qui regardent. Les mains regardent aussi. Donc de toute façon, ces mains vont palper ce corps, vont le découvrir. Et puis en plus, être trop dans le noir, c'est plein d'indélicats. Il y a potentiellement des indélicatesse de mouvement, on peut être un peu maladroit. Donc on se met dans une situation où on a l'impression que ce sont nos corps qui sont gênants, alors qu'en fait, on n'est pas dans des conditions où on peut voir comment est l'autre, comment respire l'autre. Il y a aussi la peur, pas que du corps, il y a aussi la peur de la grimace, la peur...
parce que si, de la grimace
quand... Oui,
mais on fait des grimaces, Jimmy.
Non, parce que quand on jouit, on ne sait pas la tête que l'on fait.
D'accord.
Et donc, on a peur d'avoir une tête ridicule, grimaçante et donc du coup chacun essaie de se fabriquer un personnage. L'avantage d'une lumière un peu douce ou du noir, c'est qu'on n'est plus préoccupé par ce genre de choses.
De toute façon, il n'y a pas de mal à avoir des rapports sexuels dans le noir en fait.
Pas du tout, mais bien sûr que non.
Il n'y a aucune raison que le partenaire en face nous dise non, il faut absolument allumer la lumière, il faut au contraire respecter ça et puis
bien
qu'on fait avec, mais ça ne doit même pas être un sujet de discussion, je pense.
Ou, vous avez raison, c'est-à-dire que si on considérait que le but, c'est à un moment donné se retrouver en pleine lumière, ce serait encore une fois favoriser la pornographie, au sens de voir les corps de façon photographique, avec des gros plans, ce qui peut nourrir le fantasme de certains, justement éduqués par la pornographie. Mais sinon, justement, l'érotisme s'accorde mieux avec une part de fantasme qui va pouvoir être portée par le fait de ne pas tout voir et donc de plus imaginer.
Mais là, elle craint que son copain fuit. Elle le dit elle-même. Elle dit ma timidité, mes complexes, vouloir être dans le noir, ça, apparemment, ça n'a pas l'air de convenir à son partenaire. Donc il faudra qu'elle travaille sur ses complexes pour que les choses s'améliorent du point de vue sexuel. Non,
je pense que qu'elle, puisqu'elle a conscience de ses complexes, évidemment que c'est un sujet pour elle, mais pas au nom de son partenaire. Parce que sinon, ça fait la loi, encore une fois, du partenaire animé et habitué à la pornographie et qui attend donc essentiellement de retrouver tous les codes qui l'ont fait grandir et qui l'ont d'une certaine manière limité lui-même. Donc effectivement, ce qui est vraiment ce qui est important, c'est de pouvoir se dire que elle a à travailler sur elle-même pour plus de tranquillité, pour plus de sécurité, pour aussi ou s'épanouir, se trouver belle, se regarder dans la glace, s'aimer avec ses défauts, qu'elle soit trop maigre, trop grosse, cellulitueuse ou avec vergeture.
C'est le cas de beaucoup de femmes, rassurez-vous.
Et puis si c'était un facteur pour ne pas être désirée, il y aurait beaucoup de femmes sur le carreau et je vous assure que tel n'est pas le cas.
Merci.
C'est vraiment les femmes qui sont cruelles sur ce plan, plus que les hommes.
C'est vrai. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils précieux comme toujours. Je vous dis donc à demain, rendez-vous dès 15h.
Sans rendez-vous sur Europe 1.